Bonjour à tous. Ce matin, nous allons parler de la bonté de Dieu envers un homme boiteux de deux pieds qui s'appelait Mephibosheth. Pour en parler, nous allons considérer successivement trois textes qui se trouvent dans le deuxième livre de Samuel. Chacun de ces passages révèle un caractère particulier de trois personnages, à savoir David, le roi bienveillant type, Ziba, l'intendant hypocrite type, Mephibosheth, le boiteux, convié du roi David, le pécheur type reconnaissant. Maintenant, lisons dans 2 Samuel 9, versets 1 à 13, pour commencer. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Ziba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Ziba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge encore envers lui, pour que juge envers lui de la bonté de Dieu. » Et Ziba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ? » Et Ziba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, en tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth !» Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Ziba, serviteur de Saül, lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Ziba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Ziba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Jusqu'ici, notre lecture. Après la mort de Saül, et plus précisément, après un court règne contesté de Ish-Boshet, le fils de Saül, David fut proclamé roi sur tout Israël. Ainsi, débarrassé de ses ennemis, c'est-à-dire des peuples aux alentours qui lui faisaient la guerre, et solidement installé, confortablement installé dans son palais à Jérusalem, David se souvint de Jonathan et il dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Pour en connaître la raison, faisons un saut en arrière à l'époque où Saül, le père de Jonathan, était encore roi en Israël. Après la victoire de David sur le géant philistin Goliath, Jonathan, le fils héritier du trône, devint un très proche ami de David et conclut une alliance avec lui, une sorte de pacte d'amitié. On trouve ça dans 1 Samuel 18 et compagnie, verset 1 et suivant. Le nom de David devient de plus en plus célèbre à cause des victoires que l'Éternel lui a permis de gagner sur les Philistins. Cette célébrité déplaisait beaucoup à Saül et il voyait en David une menace pour son trône. Pour cette raison, il projeta de faire tuer David et informa Jonathan de son intention. Et Jonathan, qui à son tour, informa David de mauvaises intentions, des intentions malveillantes de son père. Ainsi, les deux hommes, c'est-à-dire David et Jonathan, ont renouvelé leur alliance en y ajoutant un engagement visant à protéger leurs familles respectives. Écoutez ce que je dis, Jonathan. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de Dieu. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, envers ma famille. Et Jonathan fit encore jurer David par l'amour qu'il lui portait, car il l'aimait comme il aimait son âme. Finalement, comme Saül était résolu à faire mourir David, les deux hommes, cette fois-ci, décidèrent de se séparer définitivement, pleurant l'un dans le bras de l'autre. David, fidèle aux promesses faites à Jonathan. C'est un roi fidèle à ses promesses, dont le cœur était préparé par Dieu, qui demanda: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? 2 Samuel 9, verset 3. Ziba, un ancien serviteur de la maison de Saül, dont on aura l'occasion de connaître le vrai caractère, apprenait au roi David qu'effectivement, Jonathan avait un fils blessé des pieds ou boiteux de deux pieds qui se trouvait à Lo-Debar dans la maison de Machir, fils d'Amiel. Que sait-on de ses fils? Cet homme s'appelait Mephibosheth, le fils de Jonathan et le petit-fils de Saül. Mephibosheth avait 5 ans quand parvenait la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan dans la bataille engagée contre les Philistins au mont Gilboa. En apprenant la nouvelle, la nourrice paniquait et Mephibosheth était tombé. Et il en était resté paralysé des deux pieds. Cet enfant fut recueilli par Machir, fils d'Amiel, dans sa maison à Lo-Debar, où David envoie Ziba le chercher pour user de la bonté de Dieu envers lui. Mephibosheth devant le roi. Qu'est-ce que la bonté de Dieu? La bonté de Dieu, c'est ce que Dieu fait dans sa grâce pour les hommes et les femmes qui sont à leur tour, par reconnaissance à Dieu, sont invités à faire la même chose pour les autres. Mais malheureusement, l'homme tel que nous le connaissons aujourd'hui, même avant, témoigne la bonté à ceux qui méritent cette bonté. Il ne fait pas toujours ce que Dieu attend de lui. Il fait ainsi, espérant qu'on lui donnera quelque chose en retour. C'est du donnant-donnant. Tu me donnes ceci, je te donne cela. Mais avec le roi David, nous avons un modèle de ce que Dieu a vu voir se réaliser parmi nous. David en lui-même, reconnaissant de la bonté de Dieu envers lui, voulait faire connaître la grâce de cette bonté à Mephibosheth. Mephibosheth, mes chers amis, n'a rien fait pour mériter cette bonté. Mephibosheth n'aurait jamais se déplacé si la grâce de Dieu ne venait pas le chercher là où il se trouvait à Lodébar. Pourtant, l'homme, dans son orgueil, comme le pharisien, continue de penser que c'est à l'homme de faire le premier pas. Mephibosheth n'aurait jamais fait le premier pas. Il était trop boiteux. Il n'avait ni la force, ni le courage, ni les jambes assez solides pour faire le voyage de Lodébar jusqu'à Jérusalem. En plus, Mephibosheth avait trop peur pour venir de lui-même vers David. Il fallait venir le chercher. Et Mephibosheth vint vers David et il tomba sur sa face et se prosterna. Nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et moi je le ressusciterai au dernier jour. Sans cette grâce qui nous a cherchés, nous aurions tous péri dans nos misérables efforts pour nous cacher loin de Dieu, comme Mephibosheth dans son refus d'en désespérer à Lodébar. Tout ce que l'homme a à faire lorsque la grâce de Dieu vient à lui, c'est d'ouvrir son cœur pour la recevoir dans une attitude d'obéissance, d'humilité et parfois même de crainte. Voici Mephibosheth, tout tremblant, à genoux, face contre terre, devant le roi David, ne sachant pas ce qui allait lui arriver. La question que je vous pose ce matin, à la place de Mephibosheth, est-ce que vous auriez peur? Personne ne dit rien. Je pense que Mephibosheth a raison d'avoir peur. C'était normal pour lui d'avoir peur parce qu'il savait que son grand-père, Saül, voulait tuer David, l'homme devant lequel il s'agenouillait. C'est normal pour lui aussi d'avoir peur parce qu'il savait que si la justice devait s'appliquer dans sa rigueur, elle demanderait à coup sûr sa mort en tant que prince héritier du trône. Parce que d'après les coutumes de l'époque, tous les éventuels prétendants au trône devaient être tués lorsque la royauté passait d'une famille à une autre. Mais David, dans sa bonté, avait décidé de faire une grâce inespérée à Mephibosheth, qu'il reconnaissait lui-même dans 2 Samuel 19, verset 28. Car, dit-il, c'est Mephibosheth qui parle, car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le Seigneur mon roi. Nous avons là, mes chers amis, une image d'un pécheur tremblant amené dans la présence de Dieu avec un terrible fardeau de transgression et de péché. Il ne connaît pas Dieu, il ne sait pas ce qu'il doit attendre de lui. Mais le roi, pour le rassurer et pour le mettre en confiance, l'appelait par son nom. Mephibosheth, comme s'il se connaissait déjà. Je ne sais pas si vous imaginez, mes frères et sœurs, ce que pouvait ressentir David lorsqu'il voyait le fils de son ami Jonathan se prosterner devant lui. Vous est-il déjà arrivé de rencontrer l'enfant d'un ami bien cher et décédé? En voyant Mephibosheth, David devait encore et encore, se souvenir de son ami Jonathan qui lui avait sauvé la vie tant de fois. Dans ce cas, vous pouvez comprendre la tendresse, la joie de David pour cet enfant. Quand il dit surtout, Mephibosheth, voici ton serviteur, réponse pour homme en tremblant, parce qu'il ne voyait pas encore cette grâce qui allait lui être accordée. Le roi ne laissait pas Mephibosheth parler et l'interrompait, en disant, « Mephibosheth, ne crains point, car certainement, j'userai de bonté envers toi à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai tous les champs de Saül, ton père, et tu mangeras continuellement le pain à ma table. » Voyez, mes chers amis, aucune condition n'était imposée à Mephibosheth pour bénéficier de la largesse du roi. C'est ainsi que Dieu le veut. Pas de reproche, pas de débat, pas de protocole et pas d'exigence préalable pour apprendre à Mephibosheth comment il devait se présenter devant le roi. Il venait tel qu'il était. Et Dieu nous accepte tel que nous sommes. Comment pourrait-il en être autrement, puisque le cœur de David était déjà rempli d'amour pour le fils de son ami Jonathan? Oui, certainement, j'userai de bonté envers toi. Je veux te faire du bien. Oui, je veux te traiter avec bonté et je vais prendre soin de toi. Je veux te faire du bien, je veux te prendre soin de toi. Si je fais cela, c'est parce que tu es le fils de mon ami Jonathan. Et tu mangeras continuellement le pain à ma table, en dit David. En disant cela, David devait encore entendre cette voix de Jonathan qui lui dit, « Veille, ne pas retirer ta bonté à ma famille. » Cette tendresse du roi David, mes chers amis, pour le fils de Jonathan, est dans la droite ligne de ce que Dieu veut voir se produire parmi nous. Dieu veut que nous soyons bons les uns envers les autres, comme il l'est envers nous. C'est ce même Dieu qui, montrant la croix de Christ, nous dit ce matin, « Ne craignez pas, je vais user de la bonté de Dieu envers vous, à cause de l'amour de Jésus. » Et tout cela de même, sans une seule condition, toute pure grâce découlant de son cœur qui déborde d'amour. Pouvez-vous dire que cette grâce, que cette bonté vous a gagné le cœur ce matin et que vous êtes prêt à vous vous approcher de Dieu dans une attitude de repentance et d'humilité? Malheureusement, parfois nous sommes très loin de cette pensée. Même Mephibosheth, tout pénétré de la surabondante grâce inconditionnelle que Dieu a répandue dans son cœur, se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? C'est ainsi que la bonté de Dieu conduit à la repentance. Qui suis-je, demanda Mephibosheth, pour que tu t'intéresses à un handicapé, un pauvre, à un indigent tel que moi? Oui, il n'y a rien en moi qui vaille la peine de cette bonté. Il n'y a rien en moi qui puisse attirer la sympathie. Pourquoi une telle bienveillance? Demande Mephibosheth. Dieu aime les gens qui s'humilient. Plus les hommes s'humilient, reconnaissant leur faute en devant Dieu, plus il les met au bénéfice de la gratuité de son précieux amour. Dieu aime les gens qui se repentent. Après cette parole de repentance de Mephibosheth, écoutez comment le roi David va déverser la grâce de Dieu sur Mephibosheth. Mephibosheth devant le roi. Mephibosheth à la table du roi. Le roi appelle Ziba, serviteur de Saül, et le nomme intendant de Mephibosheth, c'est-à-dire serviteur maintenant de Mephibosheth, en lui donnant des ordres bien précis auxquels Ziba promet de se conformer. Ton serviteur fera selon tout ce que le roi, mon Seigneur, a commandé à son serviteur, dit Ziba. Quels sont ses ordres? Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, un peu plus loin, afin que le fils de ton maître ait toujours à manger. Et Mephibosheth mangera continuellement les pains à ma table. Et Mephibosheth, dit le roi, mangera à ma table comme un des fils du roi. Et Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi et il était boiteux de pieds. Mon Dieu, quelle grâce! Mephibosheth fut réhabilité et rétabli dans sa dignité jusqu'à être traité comme un des fils du roi mangea continuellement le pain à sa table. Mephibosheth va vivre comme un prince à Jérusalem, enfant de la grâce. Comprenez-vous votre privilège en ce matin? Vous n'êtes plus des esclaves, mais des serviteurs qui sont et qui seront toujours assis à la table du Seigneur. Car tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Jean 1, verset 12 et Romains 8, verset 17. J'ai lu quelque part une citation non vérifié, que je n'ai pas vérifié, mais approprié à ce message, du philosophe français Blaise Pascal, qui dit avec raison, « Pour faire d'un homme un saint, la grâce est absolument nécessaire, et quiconque en douterait ne sait pas ce qu'est un saint ou ce qu'est un homme. » La grâce de Dieu, mais c'est jamais, sortit Mephibosheth de sa retraite en deux peurs, de l'eau de barre pour le conduire à Jérusalem où il va jouir de tous les privilèges de l'adoption. C'est pas merveilleux tout ça, mes chers amis? Mephibosheth habitait à Jérusalem et mangeait toujours à la table du roi. Et il était boiteux des deux pieds. Voici désormais Mephibosheth à Jérusalem dans la ville du grand roi avec tous les avantages que cela impliquait. Fini son passé à l'eau de barre, t'es sans pain, pour une vie en abondance dans la cité de David. Fini l'eau de barre, terre, lieu sans pâturage, apparemment désertique, pour une vie en sécurité à Jérusalem avec les enfants du roi. C'est cette vie-là que Jésus a en réserve pour nous lorsqu'il reviendra nous prendre avec nous, avec lui. Remarquons ici, frères et sœurs, l'auteur du texte dit expressément que Mephibosheth était boiteux. Il rappelait son infirmité, parce qu'il était inconcevable qu'un boiteux habitât à Jérusalem et s'assied à la table du roi. Mais si David avait décidé de recevoir continuellement à sa table Mephibosheth et fermer les yeux sur le fait qu'il fût boiteux, c'est parce qu'il était le fils de Jonathan. Si Dieu notre Père nous fait grâce, c'est parce que nous sommes en Jésus-Christ. Assurément, Mephibosheth était un pauvre boiteux quand il fut amené à David. Oui, lorsqu'il était assis à table et qu'il regardait ses pieds, il voyait forcément sa faiblesse. Mais lorsqu'il regardait devant lui, autour de lui et vis-à-vis de lui, il voyait non seulement sa nouvelle vie, sa nouvelle nature et sa nouvelle famille, mais il voyait aussi la face de David, qui reflétait toute la bonté de Dieu à son égard. Cette grâce qu'il a cherchée, qu'il a trouvée et qu'il a placée dans cette position. Et si un seul instant, mes frères et sœurs, vous vous mettez à regarder à votre passé, à votre handicap, et cessez du coup d'avoir votre position sous la grâce, vous ne connaîtrez jamais la paix. Vous ne serez jamais en paix. Je vous dis ce matin, cessez de regarder à votre marche boiteuse. Tournez vos yeux ailleurs et regardez à ce dont Dieu a couvert sa table. Il met devant nous le sacrifice de Jésus, le mémorial de Christ. Tout ce que nous sommes en nous-mêmes, pauvres, misérables, boiteux, a été jugé et mis à mort sur la croix. Dieu tient notre vieil homme comme mort et enseveli au loin de ses yeux. Il nous va maintenant ressusciter avec Christ et même assis à lui dans les lieux célestes. En attendant de prendre de nouveaux chants de l'Assemblée, je vous dis, gardons, je nous dis, c'est valable pour moi aussi, gardons nos pieds là où est leur place et rassasions-nous des richesses et de la grâce de Dieu. Soyons seulement reconnaissants envers cette grâce par laquelle nous sommes devenus enfants de Dieu et que nous gardons pour toujours dans cette position. Fin de la première partie. Merci. Samuel 16, versets 1 à 4. De Samuel 16, versets 1 à 4. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Ziba, serviteur de Mephibosheth, vint au-devant de lui avec deux ânes battés sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 102 fruits d'été et une autre de vin. Le roi dit à Ziba, « Que veux-tu faire de cela ?» Et Ziba répondit, « Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi dit, « Où est le fils de ton maître ?» Et Ziba répondit au roi, « Voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, « Aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Ziba, « Voici, tout ce qui appartient à Mephibosheth est à toi. » Et Ziba dit, « Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, au roi, mon Seigneur. » Jusqu'ici notre lecture. Pour entrer dans les bonnes grâces du roi, la première chose que nous voyons dans ce passage, c'est un grand étalage de dévouement au roi, des ânes chargés de pain, de fruits et de vin. Que veux-tu faire de cela ? Demande le roi. Notez bien un premier trait caractéristique de l'hypocrisie des Ziba. Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui sont fatigués dans le désert. D'où viennent ces provisions? On verra bien. Où est le fils de ton maître? Demande le roi. Deuxième trait caractéristique de l'hypocrisie des Ziba. Il répond qu'il est resté à Jérusalem en disant que c'est le moment pour lui de monter sur le trône. Ziba, mes chers amis, était caractérisé par la duperie, par la tromperie, par le mensonge. Sa démarche est celle d'un traître, d'un perfide, d'un faux intendant prêt à tout pour arriver à ses fins. C'est ainsi que le roi David s'est laissé prendre au piège tendu par Ziba. Comme tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, le roi David lui décernait, lui donnait tous les biens de Mephibosheth. Voici, tout ce qui appartient à Mephibosheth est à toi. Une erreur de jugement du roi. Une justice expéditive, c'est-à-dire une justice qui ne prend pas en compte la vie de l'accusé, en l'occurrence de Mephibosheth. Le roi ici fait preuve d'un manque de discernement. Comme dit La Fontaine, aussi grands que sont les rois, ils sont ce que nous sommes. Le roi, comme nous-mêmes, peut se tromper. David, sur ce coup-là, s'était trompé. Mais une chose à remarquer. Le roi ne retira pas sa grâce à Mephibosheth, qui habitait toujours à Jérusalem et continuait toujours à s'asseoir à la table du roi. Ce que Ziba n'a pas saisi, l'amour de Dieu pour ses enfants demeure éternellement et rien ne pourra les séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Selon toutes les apparences extérieures, Ziba paraissait avoir un grand zèle, beaucoup de dévouement et un si beau formulaire de prière, mais il resta toujours dans sa position d'esclave. Je crains aujourd'hui que l'Église ne soit remplie de gens ainsi capables de trahison que Ziba. Le jour du retour de David rejeté vint à sa fin. Il rentre à Jérusalem. Et là, il va découvrir une autre réalité que celle racontée par Ziba. La troisième partie. Nous lisons dans 2 Samuel 19, versets 24 à 30. 2 Samuel 19, versets 24 à 30. Mephibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Mephibosheth ?» Et il répondit, « Ô roi, mon seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur qui est boiteux avait dit, « Je ferai sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. » Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur, le roi. Mais mon seigneur, le roi, est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon, car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi, mon Seigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir et qu'ai-je à demander au roi? Le roi lui dit, à quoi bon toutes tes paroles? Je l'ai déclaré, toi, Ziba, vous partagerez les terres. Et Mephibosheth dit au roi, qu'il prenne même le tout, puisque le roi, mon Seigneur, rentre en paix dans sa maison. Donc, David rentre à Jérusalem et Mephibosheth sort au devant de lui, comme nous le ferons lorsque Jésus reviendra. Et ce jour, tout enfant de la grâce, mort ou vivant, quand le Seigneur arrivera, sortira pour aller à sa rencontre dans les airs. D'après 1 Thessaloniciens 4, verset 15-18. Maintenant se manifeste le vrai caractère de Mephibosheth. Le texte dit, Mephibosheth n'avait pas soigné ses pieds, il n'avait pas fait sa barbe, il n'avait pas lavé ses vêtements depuis le jour que le roi s'en était allé jusqu'au jour où il revint en paix. De Samuel 19, verset 24. L'absence du roi, mes chers amis, fut pour Mephibosheth un moment d'un grand désarroi, un moment d'une grande tristesse, parce que la bonté de David avait gagné son cœur. Son attachement au roi était tellement profond qu'il mena le deuil en attendant dans la tristesse le retour de celui qui lui a fait tant de bien. Et le Seigneur Jésus compta aussi sur une semblable affection lorsqu'il disait dans la nuit de son rejet, « Un peu de temps et vous ne me verrez pas, et encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, que vous vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Et vous, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. » Jean 16, verset 18-20. L'attitude morale des disciples devait être la même que celle de Mephibosheth, celle d'hommes attristés, affligés, et dans les deuils, en attendant le retour de celui qu'ils aimaient. Maintenant, la vérité vient au grand jour. Ziba sera démasqué. Le roi demande des comptes à Mephibosheth. Pourquoi n'es-tu pas allé avec moi, Mephibosheth? C'est là qu'on apprend que c'était de lui que venaient les provisions dont les ânes étaient chargés. Toutes les démonstrations de Ziba, au fond, n'étaient que façade et hypocrisie. Mais, dit Mephibosheth, il était boiteux, ce qui avait permis à son serviteur de le supplanter.
Ziba avait calomnié Mephibosheth en prenant un masque en hypocrite. Mephibosheth maintenant, s'en remettait à la grâce du roi. Fais donc ce qui est bon à tes yeux, car toute la maison de mon père n'était que des hommes morts devant le roi, mon Seigneur. Et tu as mis à ton serviteur parmi ceux qui mangent à ta table. De Samuel 19, verset 28. Frères et sœurs, si vous avez l'assurance fondée que Dieu vous a donné par pure grâce une place à sa table, alors vous pouvez, avec une parfaite joie, regarder en avant vers l'arrivée de Jésus. Le roi lui dit, « Pourquoi me parles-tu encore de tes affaires ?» Ton cas, c'est une autre manière de dire à Mephibosheth, ton cas a été déjà réglé. À quoi bon encore de m'en reparler? Je l'ai dit, c'est David qui parle, toi et Ziba, partagez les champs. Quelle est belle la réponse de ce garçon, qu'ils prennent même le tout. Puisque le roi, mon Seigneur, est revenu en paix dans sa maison. Ce n'était pas les terres qu'il fallait à Mephibosheth. Son plus cher désir était de voir le roi rentrer chez lui. Cette attitude de Mephibosheth ne doit pas être indifférente de la nôtre. Ce ne sont plus les choses de la terre que nous devons désirer plus que tout. Je regarde même aussi toute chose, dit l'apôtre Paul, comme étant une perte à cause de l'excellence de la reconnaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. Philippiens 3, verset 8. Mephibosheth avait reçu le témoignage de la bonté de David avec une entière confiance, malgré son handicap. Il n'avait jamais douté de la réalité de l'amour de David. Et il avait attendu patiemment le retour de David, supportant toute espèce d'opprobre jusqu'à ce que le temps fût venu. Nous aussi, nous ne devons jamais douter de la réalité de l'amour de Christ pour nous. Nous devons attendre patiemment, et parfois même dans la souffrance, le retour de notre Seigneur. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, pendant les trois passages, il n'y avait pas un mot de grâce pour l'esclave. Et il n'y avait pas un commandement pour les fils. Pour l'un, c'est le service de la servitude légale. Pour l'autre, c'est le service de l'affection la plus profonde du cœur. La parole de Dieu permet de voir qu'il y a une différence entre la position de l'esclave et la position du fils. L'esclave ne demeure jamais dans la maison, mais le fils y demeure pour toujours. Si vous remarquez, David a fait plus qu'honorer sa promesse envers Jonathan. Si vous lisez un peu plus loin, qu'on n'a pas le temps de lire correctement, le chapitre 21, vous verrez que lorsque le jugement arrivera sur la maison de Saül, Mephibosheth sera toujours épargné. Voilà le texte. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment de l'Éternel qui était entre David et Jonathan, fils de Saül. De Samuel 21, verset 7. Ainsi se termine l'histoire de cet enfant de la grâce. Aujourd'hui, vous avez le choix comme Mephibosheth. Restez à l'eau de bas ou venir à Jérusalem. Vous ne pouvez pas avoir un pied à l'eau de bas, un autre à Jérusalem. Il faut choisir. Moi, j'ai choisi. Et vous? Il n'y a pas de position neutre. Je vous le demande encore. Et vous? L'eau de bas, la terre désertique, aride, ou Jérusalem, Que choisissez-vous? J'aimerais bien vous entendre. Que choisissez-vous? Moi aussi, j'ai choisi Jérusalem. Et vous, qui hésitez encore à répondre à l'invitation du roi, l'Esprit du Seigneur vous dit ce matin, il veut vous faire connaître la bonté de Dieu. Ne restez pas à le débat. Venez, il y a encore de la place. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci. Amen.